Non, c'est bon. Finalement, ça va. Ok. Alors, sois reconnaissant. C'est le thème de notre week-end. On est d'accord. Pourquoi ce thème ? Pourquoi ce thème ? On vient d'avoir des témoignages où on a parlé de la souveraineté de Dieu. On a parlé de son amour. Du fait que cet amour, un amour qui nous attire à lui, de sa grâce, de sa présence dans nos vies, à nos côtés. On vient de réfléchir à comment dire merci à Dieu et on a eu quelque part une illustration de ça. Pourquoi est-ce que ce thème est-il si important ? Alors ce thème est essentiel pour plusieurs raisons et j'aimerais vous en proposer deux en guise d'introduction. La première raison, c'est que la reconnaissance nous conduit à une vision, une connaissance plus profonde de Dieu. Elle nous invite à prendre conscience de qui est Dieu, de mesurer la portée de ses attributs. Te souviens-tu de la dernière fois que tu t'es émerveillé de Dieu ? Sur quel attribut de Dieu ton émerveillement reposait-il ? Peut-être sa fidélité ? Sa grandeur, sa bonté, sa grâce. Rappelle-toi de la dernière fois où tu as pleuré devant Dieu. Là aussi, quel attribut de Dieu t'interpellait ? Sa sainteté, son amour, son pardon. Oui, la reconnaissance ne nous pousse pas seulement à dire merci. C'est beaucoup plus riche que ça. Elle peut nous pousser à pleurer, elle peut nous pousser à chanter, elle peut nous pousser à mieux le servir, à l'adorer. Mais avant toutes ces choses, la reconnaissance nous conduit d'abord à une vision, à une perception plus profonde, plus personnelle de Dieu. Et c'est de là que tout le reste découle, la louange, une vie d'attachement avec Dieu. Voilà pour une première raison. Alors dis-moi, est-ce que vous voulez avoir une vision renouvelée, une connaissance plus profonde de Dieu, plus personnelle de lui, au travers de la parole ? Et j'espère que la réponse pour chacun d'entre nous, elle est oui. Passons maintenant à la deuxième raison. La deuxième raison, c'est que la reconnaissance nous garde de l'ingratitude, d'une rébellion, du fait d'ignorer littéralement Dieu. Imaginez une personne de votre entourage. Une personne à qui vous accordez de l'attention, vous la visitez, vous lui offrez des cadeaux, vous lui accordez du temps, vous priez pour elle, vous lui donnez des conseils, et qu'en retour, cette personne vous ignore. C'est une manière de vous dire que finalement, ça va, je n'ai pas vraiment besoin de toi. La reconnaissance nous garde de cette attitude ingrate. Ce mépris qui consiste à ignorer Dieu. Et Johnson nous l'a rappelé hier qu'un moyen, c'est justement de compter les bienfaits de Dieu. Alors, est-ce que tu veux lutter contre l'ingratitude de ton cœur ? Là encore, j'espère que la réponse est oui. Voilà deux raisons qui justifient le thème de notre week-end, le thème que nous allons continuer à aborder ce matin. Ces deux raisons appuient une même vérité. La reconnaissance, elle monte vers Dieu. C'est l'être humain qui l'exprime à Dieu. Et c'est ce qui nous amène à notre texte du jour. J'ai une question pour vous. Selon vous, quel est le seul livre de la Bible qui est vertical ? Vertical dans le sens où il est totalement dirigé vers Dieu. Et il s'agit du livre des Psaumes. Tous les autres livres de la Bible nous exposent la pensée de Dieu pour l'être humain et ses relations. Ils sont tous orientés vers nous et nos relations. Les psaumes, eux, sont directement tournés vers Dieu. Alors, c'est quoi les psaumes ? C'est une collection de poésies écrites par des rois, par des chantres et par des auteurs inconnus. Et ce qui est frappant, c'est que le contenu des psaumes, enfin, on a toutes les thématiques dans le contenu des psaumes. Dedans, vous trouverez la création. Les psaumes parlent de Jésus, de la chute, de la résurrection, de plusieurs thématiques qu'il y a dans la Bible. Et c'est fascinant. Voyons cela ensemble. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire un psaume où David, l'auteur, nous révèle son plus grand bien. La reconnaissance révèle. notre plus grand bien. C'est le titre de cet enseignement. Pour ceux qui ont ces Bibles, c'est sur la page 300... non, vous ne les avez pas, donc... 373. Chapitre ? Ah, psaume 16, excusez-moi. Psaume 16. C'est bon, tout le monde, là ? J'aimerais que vous gardiez vos Bibles ouvertes tout au long de l'enseignement. Garde-moi, ô Dieu, car je recherche refuge en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de mon affection. On multiplie les idoles, on court vers les dieux étrangers, mais moi, je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assure mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur veut être dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître les sentiers de la justice et il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Alors, regardez le texte, on va regarder la structure de ce texte-là. Du verset 1 au verset 8, David exprime sa reconnaissance à Dieu en lui disant « C'est toi mon refuge. Tu es mon Seigneur, mon bien ultime. » Au verset 8, « Tu es mon conseiller. » Et après, au partir du verset 9, on a un peu un pivot où il dit « C'est pourquoi ?» C'est pourquoi. Quelque part, une conséquence. Dans la première partie, David parle uniquement au présent. À partir de ce verset 9, en fait, on passe au futur. On part du présent au futur. C'est pourquoi tu fais ma joie, tu me redonnes la vie, je serai éternellement auprès de toi. Il parle de sa mort. Il parle de après sa mort. Il se projette, on va du présent au futur. On a un changement à ce niveau-là. Et David nous donne deux raisons d'être reconnaissant. La première, c'est parce que Dieu est, son plus grand bien au moment où il écrit. C'est la connaissance, cette connaissance profonde-là qui nous décrit. Dieu est son plus grand bien. Et la deuxième, c'est que Dieu le sera même après sa mort. C'est énorme. Et c'est sur ces deux éléments que va s'articuler cette prédication. On va d'abord voir que on peut être reconnaissant car Dieu est notre plus grand bien aujourd'hui. C'est notre premier point. Sois reconnaissant car Dieu est notre plus grand, est ton plus grand bien aujourd'hui. Et la deuxième, c'est que tu peux être reconnaissant car Dieu veillera sur toi, Dieu veillera sur nous jusqu'à la fin. Sois reconnaissant car Dieu est notre plus grand bien aujourd'hui et sois reconnaissant car Dieu veillera sur nous jusqu'à la fin. On y va pour le premier point. Dans cette première partie, on va se focaliser sur les 8 premiers versets. Regardez le verset 2 où David dit « Tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême ». Pour David, c'est une certitude. Il réalise ce qu'il dit « Dieu est son plus grand bien ». Je ne sais pas vous, mais cette affirmation me donne envie de savoir pourquoi. Pourquoi ? Qu'est-ce qui l'amène à faire une telle déclaration ? Quelle est sa vision de Dieu qui le pousse à s'exprimer de la sorte ? Le texte nous donne au moins 3 éléments. Au verset 1, on voit que Dieu est son refuge. Au verset 4, il dit « Il est plus important que toutes les idoles, il est au-dessus ». Verset 7 à 8, un Dieu qui se révèle, un Dieu qui est un conseiller, qui vient nous parler. Un Dieu qui lui assure une certaine stabilité, une constance. Premier verset, regardons-le ensemble. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche mon recherche refuge en toi. À quoi vous pensez quand on vous parle de refuge? Vous pensez à quoi?
Sécurité.
C'est ça. Un refuge est avant tout un lieu sûr. Il y en a qui ont dormi dans des bunkers? C'était considéré comme étant un lieu sûr à l'époque. Enfin, à l'époque, au moment de la première, ou je ne sais pas si la deuxième guerre mondiale. Un refuge, c'est un lieu sûr. Mais alors, ce n'est pas un lieu physique, en tout cas, ce n'est pas ce que David nous décrit ici. On voit dans ce verset comment David renonce à compter sur lui-même, sur ses capacités, sur quelqu'un d'autre que Dieu pour le garder. C'est ça son refuge. Cette idée-là qui consiste à ne pas compter sur lui-même, sur ses capacités, mais sur quelqu'un d'autre que lui. Il dit « Garde-moi, c'est toi qui me gardes ». En général, on sait se protéger nous-mêmes, mais il a recours à quelqu'un d'autre. « Garde-moi ». Une dépendance totale, une soumission qui le pousse à s'abriter, à se réfugier en Dieu. Et ce verset en entre, David nous dévoile sa foi, sa confiance en Dieu. Benjamin ?
Il est où ?
Je sais pas. J'ai une question pour toi. Imagine que tu as beaucoup de sous. D'un coup, tu es riche et tout, et que tu veux construire une maison. Est-ce que tu viendras me voir, moi, pour que je construise ta maison ?
Non.
Ok. Et je suis totalement d'accord avec toi. Parce que tu n'as pas confiance à ma capacité à te construire une maison. Et d'ailleurs, personne ne devrait l'avoir. Je ne sais pas le faire. Je ne suis ni architecte, ni maçon. Pourquoi vous devez avoir confiance en moi? David, ici dans ce texte, a pleinement confiance en Dieu. Une confiance profonde en Dieu. Et c'est là sa foi. C'est là, c'est ce qu'on appelle la foi. Une confiance profonde. Il croit en Dieu. Dieu est son plus grand bien. Et c'est pour cela que Dieu est également son refuge. Au verset 4, David nous dit que pour lui, Dieu est plus important que tous les idoles. Un contraste saisissant entre David qui place sa confiance en Dieu et ceux qui la placent dans leurs idoles. Regardez, il y a plusieurs idoles. Verset 4, on multiplie les idoles. On multiplie les idoles. Il y en a plusieurs. Les gens courent vers ces dieux étrangers. Vraisemblablement des statuettes à l'époque. Les gens courent vers de simples statuettes. Est-ce que vous, si c'était une statuette, est-ce que vous serez prêt à courir vers cette statuette, vers ce petit bout de bois? Oui? Non? Réponse?
Non.
Non? Pareil, on aurait presque envie de dire, qu'est-ce que tu cours vers ça? C'est bête. Jamais je ne ferai ça. Mais l'enjeu ici est beaucoup plus profond. David est en train de faire référence ici au livre de la Genèse, de la création où Dieu crée l'homme à son image pour que l'image de Dieu puisse peupler la terre. En courant vers quelque chose d'autre que Dieu, ces personnes se détournent de Dieu. Et ça, c'est de l'idolâtrie. C'est le fait de se détourner de Dieu. Timothée Keller, dans son livre « Les idoles du cœur », définit les idoles de la manière suivante. Une idole, c'est tout ce qui est plus important que Dieu dans ta vie. C'est tout ce qui captive ton cœur et ton imagination. Tout ce qui remplace les biens que Dieu seul peut te donner. Peut-être que je courirais pas vers ça. Mais je dois reconnaître que j'ai mes idoles. Et l'apôtre Pierre, en faisant référence aux faux prophètes, en fait, il les qualifie quelque part. Enfin, en fait, les idolâtres, pour l'apôtre Paul, c'est des faux prophètes. Je m'explique. Dans le sens où il pousse les gens à se détourner de Dieu. Et il dit, je vous cite un texte. Ces gens-là sont des sources sans eau. Il n'y a rien qui coule. Des nuages poussés par la tempête, l'obscurité, des ténèbres leur est réservée. Avec des discours pleins de vide, Ils prennent au piège des plaisirs de la chair, de leur débauche, ceux qui ont en réalité échappé aux hommes vivants dans leur égarement. Là où je veux en venir, c'est le verset 19. Je vous lis. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque chacun est esclave de ceux qui l'a dominé. Ils vont envers les idoles pour être libres quelque part, mais en fait, ils sont esclaves de leur corruption. Et Pierre va plus loin, il dit « Chacun est esclave de ce qui le domine. » Chacun est esclave de ce qu'il domine. Face à ces personnes qui courent loin de Dieu, David, lui, se tourne vers Dieu et ceux qui le craignent, ceux qui lui sont consacrés. Et au verset 7, il dit « Je bénis l'Éternel car il me conseille, même la nuit mon cœur m'instruit, j'ai constamment l'Éternel devant moi, quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. » Dieu parle à David, il se révèle à David, il lui assure une stabilité, « Je ne suis pas ébranlé. » Dieu lui assure une stabilité, une constance. Et notez bien qu'il y a un caractère qui est continu dans la vie de David. Il dit « Je suis constamment ». C'est quelque chose qui se poursuit, qui continue. Et c'est limite un style de vie auprès de Dieu pour lui. Qu'est-ce qui captive ton cœur? Quelles sont tes idoles? David se réfugie en Dieu. Qu'en est-il pour toi? En général, on se réfugie pour échapper à quelque chose ou à quelqu'un. Toi, vers qui ou vers quoi tu cours pour te réfugier? Il y a un gars qui s'appelle William Schutz. C'est un psychologue américain et c'est Arnaud Potier, le papa de Benjamin, qui nous l'avait fait découvrir. Il nous propose trois catégories dans lesquelles on peut classer nos peurs. Je trouve que c'est assez intéressant pour parler de nos idoles. Il dit, on a trois types de peurs. La peur d'être ignoré. La peur d'être ignoré, elle fait essentiellement référence à la crainte de ne pas être reconnu par les autres, de ne pas participer à leurs échanges, de ne pas être intégré à leur groupe. La peur d'être ignoré. La peur d'être humilié. Elle renvoie à la crainte de ne pas être à la hauteur des enjeux, de ne pas être compétent, de ne pas savoir faire, de perdre le contrôle de la situation. La peur d'être rejeté, la dernière. Elle fait référence à la crainte de ne pas être apprécié en tant que personne, de ne pas être aimé pour ce que je suis intimement. Ignoré, humilié et rejeté. Que l'on soit conscient ou non de ces trois peurs, elles nous influencent. Elles influencent notre comportement, nous poussent à développer des attitudes réflexes qui ne sont pas toujours ancrées dans l'Évangile. Et elles nous gardent d'aller nous réfugier auprès de Dieu. Dieu nous invite à rechercher notre joie, à aller auprès de lui. Je continue avec Tim Keller dans la même idée, c'est une autre manière de voir les idoles. Il dit, si vous commencez à chercher votre joie, votre identité ou le sens de votre vie dans quelque chose d'autre que Dieu, alors cette chose est une idole. Si vous commencez à chercher votre joie, votre identité ou le sens de votre vie dans quelque chose d'autre que Dieu, alors, cette chose est une idole. Si ces peurs-là vous poussent à rechercher votre joie, votre identité, dans quelque chose d'autre, eh bien, ce sont des idoles vis-à-vis duquel vous devez faire face. Les idoles, il y en a plusieurs. Ce n'est pas des statuettes, mais il y en a beaucoup. L'idolâtrie du matérialisme, par exemple, ouais, en fait, la vie n'a de sens, ou alors, autrement dit, je n'aurai de valeur que si j'ai un certain niveau de richesse. une certaine liberté financière et des biens, de beaux biens, une idolâtrie matérielle. Est-ce que tu tires ta joie, le sens de ta vie, de tes possessions? Dieu, dans ce passage, t'invite à le découvrir, lui, comme étant ton bien suprême, ta possession la plus importante. Tes jolies baskets, tes beaux vêtements, ta grosse caisse, tu n'es, n'ont aucune valeur devant Dieu. Idolâtrie de l'image de soi. Il me faut absolument avoir le style. Tu vois, petite lunette là. Pose. Voilà, une veste claquante. Il me faut absolument avoir du style. C'est ce qu'on voit dans tous les journaux. Hein. Avoir un beau corps. Un peu comme pour les filles, un peu comme ceux de Beyoncé. Ah, me signez les filles. On le voit partout. Vous regardez les journaux, tout ça. C'est que ça. L'idolâtrie de l'image de soi. Et elle nous pousse à faire énormément de choses pour être appréciés. Pour attirer les regards sur nous. On est centré sur nous, on est centré sur nous-mêmes. On construit notre identité, notre satisfaction, notre sens à la vie sur notre apparence. Hier, je ne sais pas si vous avez vu, mais enfin, j'avais plus de 1500 likes sur Instagram. Vous avez vu ou pas? C'était cool, hein? 83 commentaires en moins de 5 minutes. C'est génial, hein? Mais sans vous en rendre compte, enfin, je réalise que moi-même, des fois, sans m'en rendre compte, en général, sur Instagram, je ne mettrais pas une photo où je suis la tête, tu sais, enfin, genre, je vais me réveiller, tu sais, Instagram, tu vois. Petite réalité de la vie, mon réveil. Non. En général, on mettra forcément quelque chose, enfin, pour tous les comptes Instagram que j'ai vus jusqu'à présent, enfin, j'ai l'impression que même mon compte Facebook, hein, c'est toujours des photos qui sont jolies, on est d'accord? Bon, si vous faites différemment, ben, c'est cool. Il faudrait que je m'inspire de vous. Mais en tout cas, ça ne représente pas la réalité de notre vie. Et c'est quelque chose qui, je pense, qui est quelque part ancré en nous, et c'est en ce sens qu'on doit faire gaffe aux réseaux sociaux. Les conséquences peuvent être désastreuses sur cette question de l'image de soi. Parce que ça peut même impacter nos relations, les personnes qui nous entourent, et peut-être la personne qui partagera votre vie. Comment allez-vous la choisir? Comment allez-vous la choisir? Si votre image de vous-même est centrée sur... Enfin, est centrée comme on vient de le voir là. Comment allez-vous la choisir? Avec l'exemple de David, Dieu nous invite à nous décentrer de nous-mêmes pour nous recentrer sur lui. Imaginez un instant, là, il y a Emmanuel Macron qui débarque. Il rentre là. Monsieur le Président, vive la France, vive la République. Les regards, les attentions se tourneraient vers lui. Il y aura toutes des militaires un peu partout par là. Bref, en fait, voilà, et c'est lui qu'on va regarder d'une manière ou d'une autre, que tu le veuilles ou pas. C'est lui qui sera affiché, quoi. Et tout le reste n'aura plus trop d'importance à part lui. Eh bien, notre attention vis-à-vis de Dieu doit être encore plus que celle qu'on accordera à Emmanuel Macron. En sorte que tout le reste perd de son sens. Tout le reste perd de son sens et que ce soit lui qui ait notre attention, qui soit le centre de nos pensées. L'idolâtrie de la religion. La vie n'a de sens où je suis satisfait que si je respecte certains codes moraux de ma religion et que j'accomplisse toutes ces recommandations. Qu'est-ce qui te motive à chercher Dieu, à vouloir lui obéir? Les pharisiens respectaient scrupuleusement la loi, mais ils n'aimaient pas Dieu pour autant. Oh, les pharisiens obéissaient à la loi. Pourtant, ils méprisaient les pécheurs, ceux-là que Jésus aimait et avec lesquels Jésus habitait. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils tiraient leur satisfaction, non pas de Dieu, mais de leur vie de piété. Du nombre de fois qu'ils jeûnaient dans la journée, du fait qu'ils, eux, respectaient le sabbat. C'est ça ce qui leur donnait de l'importance. C'est ça ce qui les motivait. L'obéissance scrupuleuse à la loi peut nous éloigner de Dieu et de notre prochain. Regardez ce psaume. Regardez ce que Dieu nous dit dans ce psaume. Il nous appelle avant tout à l'aimer, à rechercher notre joie en lui. Verset 9. « C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Dieu est ce qu'il y a de plus beau, de plus précieux pour David. » Et c'est cette connaissance plus profonde de Dieu qui est au cœur du thème de la reconnaissance. Une connaissance plus profonde de Dieu. L'idolâtrie des accomplissements, de peut-être nos titres, je sais pas. C'est l'idée d'être reconnu pour ses réalisations, pour l'excellence de son travail, au point de... Au final, ce qui donne un sens à notre vie, ce qui fait notre valeur, ce sont nos réalisations. Personnellement, j'ai certaines facilités à faire certaines choses. J'ai des prédispositions, on va dire, pour toucher à certaines choses. Et quand je regarde à mon cœur, quand je regarde à ma vie, je réalise que des fois, je puise quelque part le sens de ma vie, si je peux dire, ma valeur, dans ces choses-là. Je suis responsable de groupe de jeunes, je suis responsable d'un groupe de semaines. Quand je regarde à mon cœur, des fois, je me rends compte que le titre en tant que tel a plus de valeur à mes yeux que devrait l'avoir Dieu. J'ai besoin aujourd'hui, là, maintenant, de vivre la réalité de ce psaume, d'avoir une connaissance plus profonde de Dieu pour qu'il soit lui mon bien suprême, ce qui a le plus de valeur pour moi. Qu'en est-il pour toi? Qu'en est-il pour toi? Suivant l'exemple de David. Suivant l'exemple que Dieu nous donne au travers de David. C'est un exemple qui nous concerne aujourd'hui et qui va nous poursuivre tout au long de notre vie, jusqu'à notre mort et après aussi notre mort. On arrive à notre deuxième point. Soyons reconnaissants car Dieu veillera sur moi jusqu'à la fin. Soyons reconnaissants car Dieu veillera sur moi jusqu'à la fin. À quoi correspond cette fin? Dans ces trois derniers versets, du verset 9 au verset 11, David nous invite à faire un bond. On part du présent, on va vers le futur. Relisons cela ensemble. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, présent. Même mon âme, mon corps reposera, on passe au futur, en sécurité. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. C'est fascinant de voir comment David, alors que la Bible était constituée de quelques livres, on n'avait pas, enfin, toute la suite, on était, enfin, imaginons qu'on avait juste les cinq premiers livres de la Bible. David croyait à la résurrection des morts. C'est fascinant de voir comment il avait confiance en Dieu pour son salut, pour aujourd'hui, mais aussi pour demain, pour ce qui va se passer demain, même jusqu'à sa mort. Il avait confiance en Dieu. C'est fascinant de voir comment il aspirait à vivre son éternité avec Dieu. Est-ce que tu aspires à cela? Et maintenant, si je vous dis qu'il y a quelque chose qui est encore plus fascinant dans ce texte, qui est encore plus beau dans ce texte. Pourquoi? Parce que dans ces quelques lignes, Dieu nous a laissé un message capital. C'est quoi le dernier mot au verset 11? Droite. Qui est à la droite de Dieu? Jésus. Colossiens 3, 1. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. » Combien de temps David est resté au tombeau? Combien de temps il est resté dans son tombeau où il est mort une fois? Combien de temps il est resté dedans? Jusqu'à maintenant. Est-ce que son corps a connu la décomposition? Relisons le texte. Relisons le texte. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Ça ne s'applique pas à David. Regardez le verset 11. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Qui nous fait connaître le sentier de la vie? Qui est le chemin de la vie? Qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » ? Jésus. Ces trois versets pointent vers Jésus. Ces versets ne s'appliquent à personne d'autre dans toute l'histoire de l'humanité. Jésus est le seul qui n'a pas connu la décomposition. Est-ce que vous réalisez combien c'est magnifique? Dieu a pris le soin de laisser à son peuple un signe. Il voulait qu'aujourd'hui, près de 3000 ans, plus de 3000 ans après, nous regardions à ce signe-là qu'il a planté dans le sol. Un grand panneau indicateur, grand comme ça, où il est écrit « Le Messie arrive, il sera là ». Ce texte nous parle de lui. Et nous devons absolument réinterpréter ce texte avec la vérité de l'Évangile. Pourquoi? Parce que Jésus est celui qui incarne ce texte, qui est celui qui le reflète de façon parfaite. Par sa vie, il a démontré, je reprends le verset 2, que Dieu était son Seigneur, que Dieu était son bien suprême. Jésus peut dire « J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. » Jésus est le modèle qu'on doit suivre. C'est lui qu'on doit suivre parce que c'est lui qui l'incarne pleinement. Matthieu Henry nous dit, c'est un commentateur, il nous dit, au travers de ton Fils bien-aimé, notre cher Sauveur, tu nous montreras au Seigneur le chemin de la vie. Tu justifieras nos âmes maintenant et tu ressusciteras nos corps par ta puissance au dernier jour. La douleur terrestre sera transformée en joie céleste. La souffrance deviendra une plénitude éternelle. Ce texte nous parle de la résurrection et la résurrection est un enseignement important de la foi chrétienne. Pierre nous dit, par exemple, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître à nouveau à travers la résurrection de Christ, pour une espérance vivante. » C'est Grudem qui le dit, donc Wayne Grudem, c'est un enseignant, il dit « Ici, Pierre établit un lien explicite entre la résurrection et notre régénération, notre nouvelle vie. » Il est question d'une nouvelle vie ici. Quand Jésus est ressuscité des morts, on a reçu une nouvelle qualité de vie, une vie de résurrection. C'est au travers de cela qu'on peut vivre un changement. En synthèse, il y a tellement de choses qui nous éloignent de Dieu. Nos peurs nous éloignent de Dieu. Elle nous éloigne de notre seul vrai refuge, qui est Dieu lui-même. Elle nous empêche d'expérimenter une connaissance plus profonde de Dieu. Finalement, elle nous prive de la vraie reconnaissance, de la vraie vie de reconnaissance qu'on doit avoir. Que faire ? Bien, ce matin, je t'invite à te mettre à nu devant Dieu. Va devant lui avec ses peurs. Imite Jésus. Jésus s'est rendu vulnérable. Lui qui était Dieu s'est laissé insulter. On l'a injustement accusé. Jésus était cet agneau qu'on amène à l'abattoir, un agneau, symbole de vulnérabilité. Dis-lui, Seigneur, c'est toi mon refuge. Délivre-moi de mes peurs. Délivre-moi des solutions, des artifices que je mets en place pour gérer ces peurs, mes idolâtries, car ma solution, c'est toi. Et ça, Dieu veut le faire. Je veux le faire et j'aimerais vous lire un texte dans Tite 2. Je vais lire à partir du verset 11. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie, impie aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent, conformément à la sagesse, la justice et la piété. En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. La grâce de Dieu nous enseigne. La grâce de Dieu est la source de notre salut. Dieu nous sauve par la grâce. Dieu nous transforme par sa grâce. Cette grâce-là qui nous enseigne, d'après ce texte, c'est elle qui nous pousse à renoncer à notre mode de vie. Vous pouvez vous dire dans vos têtes, il faut que ça change. Vous mettez ça comme pensée, mais ça ne le fera pas. La Bible nous donne un autre moyen. Ce moyen, c'est la grâce de Dieu. On a besoin de cette puissance-là que Dieu seul peut faire. David n'est pas ébranlé. La constance, la stabilité, C'est Jésus qui nous la donne. Parce que lui, il a été ce modèle-là. Tu veux vaincre des idoles dans ta vie? Tu veux marcher en nouveauté de vie? Tu veux, ouais, avoir des victoires, grandir, avoir une constance, une stabilité? Eh bien, Jésus le fait. Et il le fait encore aujourd'hui. Il transcende des vies, on a écouté des témoignages. Et dans ta vie aussi, il est prêt. Il veut le faire. Est-ce que tu es prêt à te rendre vulnérable? Est-ce que tu es prêt à accepter, à reconnaître tes fautes et à vouloir changer tout simplement en comptant sur sa puissance à lui? Tout à l'heure, plusieurs quatre d'entre nous ont parlé de leurs faiblesses. Ce sont des témoignages qui nous encouragent. On est tous d'accord là-dessus, je pense. On aura dans la suite un temps en petit groupe où chacun aura une feuille pour se poser par rapport à cet enseignement qu'on a reçu. Écrire, vous verrez, enfin, il y a pas mal de questions. C'est pour travailler vous-même sur votre propre personne. Et par la suite, vous allez continuer toujours dans vos équipes à prier les uns pour les autres, partager vos faiblesses, ces témoignages qui peuvent encourager d'autres. On a vécu des bons moments, on a eu des, ça va continuer, on a eu des moments de détente, on a eu plein de choses comme ça. Je pense que c'est aussi important qu'on puisse rapprocher les uns des autres. Et il y a une phrase que je dis souvent, c'est que sans une certaine intimité, sans intimité, il n'y a pas de réelle communion. Sans intimité, il n'y a pas de réelle communion. Et c'est pas ça l'Église. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, je te remercie pour ta parole. Cette parole qui, aujourd'hui encore, elle est d'actualité. Merci pour la Bible qui n'a pas de rides, Seigneur. Je te remercie pour cette parole dans laquelle nous croyons fermement. Cette parole qui établit notre salut, Seigneur. Et c'est en elle que nous croyons, Père. Et on veut se soumettre à ta parole. On veut se soumettre à toi avant tout, Seigneur. Tu connais nos vies. Tu connais chacun de nos cœurs ici. Tu sais là où on est. Tu connais nos idoles. Tu connais toutes ces choses qui nous éloignent de toi, qui nous empêchent de te voir toi tel que tu es, Seigneur. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Il y a des domaines où ça fait des mois, des années peut-être qu'on galère. On a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de toi. Et merci pour ce groupe. Merci parce qu'on est... on est une église, Seigneur, où on n'est pas appelé à vivre chacun sur son satellite, sur sa planète. Au contraire, on est appelé à être ensemble pour pouvoir partager, pour pouvoir s'encourager, pour pouvoir écouter ta parole ensemble, pour pouvoir vivre le pardon mutuellement les uns les autres. Merci pour cela. Merci, c'est parce que c'est au travers de ton église que tu révèles au monde ta sagesse infiniment variée. Merci Seigneur parce que tu fais venir des personnes de contextes d'arrière-plan complètement divers et variés, de toutes les nations Seigneur. On a plusieurs nationalités dans notre église. Merci pour ça. Chacun arrive avec son bagage, chacun arrive avec ses idées. Et Seigneur, on veut tous vivre ta parole. On veut tous la garder au centre de nos vies. On veut tous t'obéir. Et je t'en supplie, viens nous aider à cela. Viens nous aider. Donne-nous cette constance dont il est question ici. Et donne-nous d'expérimenter cette joie que David avait. Car c'est toi, notre plus grand bien, notre bien suprême. En ton nom, j'ai prié. Amen. Mon sac est où ? Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va se mettre par équipe, comme tout au long de ce week-end. Ouais. Et chacun aura une feuille. Du coup, c'est pour ça que je voulais des stylos. Donc, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de stylos? Ok. Alors, Victoire allait nous chercher des feutres d'hier. Et je crois que Sophie m'a permis de les utiliser. Ah, pétard, j'ai oublié de les couper en deux. Mec, j'ai besoin de ton aide. Est-ce que tu peux juste... De quoi? Ah oui. En fait, l'idée, c'est que chacun... C'est que chacun prenne une feuille. Ensuite, on va dans nos groupes, on peut se répartir, enfin, pas trop loin, parce qu'après, on sifflera pour revenir ici. Je vous donne rendez-vous, il est 9, il est 10 maintenant. On donne rendez-vous dans une demi-heure, ici. On terminera avec un temps de chant. Merci. Oui, je fais passer. Sophie. Chacun une feuille. Ouais. Ouais. Enfin, je vais siffler de toute façon pour qu'on se rassemble. Et j'aimerais que quand je siffle, qu'on vienne vraiment tous ici. J'ai pas envie de venir pour faire le tour parce que sinon on va être en retard par rapport au repas. Ok, et ben maintenant on peut. Enfin, si tout le monde a une feuille ou pas ? Ça continue à circuler là ou ? Oh putain. Tu n'en as pas ? Tout le monde en a ? Ouais, bon, nickel. Ouais, c'était pour les deux filles et moi. Ok, et ben du coup, on se lève et on sort. Vous suivez vos. Enfin, au niveau de vos équipes ? Ouais. Mais j'ai visité deux fois. Ça, où ça parle de quoi ?
Il promet que.
Ah,
je crois que j'ai mes.
Ouais, je te donne.
Je n'ai pas bien retenu les 25.
Ah oui, putain, il est où On
rend les stylos après.
Je sais plus. Tu connais le verset ? Ouais, mais je l'ai plus par tête, là.
Moi, j'ai vu hier, mais...
Attends, mais c'était au début de mon truc. Je l'ai cité, ça, c'est... Attends. Je vais chercher ici, quoi. Ah oui, ça, c'est comme ça, c'est mon chemin, comme ça.
C'est ?
Non, mais comme ça, je me retrouve plus facilement. Benjamin, c'est Pierre. Deux Pierre. Deux Pierre, 2, 19. 10 à 11. Deux Pierre, 2, 17 à 19.
Deux Pierre.
Attends. Deux Pierre, 2, 17 à 19. Mag !
Deux, 17 à 19.
Merci.
Magali Reynaud ? C'est pourquoi elle est où ? Mag ? Tu peux couper là ?
Ouais. Ah, ça enregistre toujours ?
Ah oui.
Mais tu peux couper, donc 28-13, c'est bon. Et Marion.